Eh bien, nous poursuivons cet après-midi de rencontres sur la scène du marché de la poésie. Comme vous le savez sans aucun doute, Bernard Noël nous a quittés il y a quelques mois. Et c'était un grand ami du marché de la poésie, un grand ami tout court, un grand poète encore plus. Et on a décidé donc de lui rendre hommage avec cette table ronde organisée avec l'Union des poètes et compagnie. Table ronde que nous avons... sur laquelle nous avons tâché de réunir un plateau de personnes qui étaient des grands amis aussi de Bernard Noël, en plus d'être de grands poètes. Voilà, je laisse la parole à Paul de Brancion qui va diriger cette rencontre.
Celui-là qui va. Bonsoir. Je ne sais pas si je peux m'avancer vers vous, apparemment non. Voilà, écoutez, je ne sais pas si dans la salle, il y a beaucoup de gens qui connaissent Bernard Noël. Je pense qu'il y en a un certain nombre, évidemment. Mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas bien. Donc, je vais vous dire deux mots sur lui, pour commencer. Le titre de notre table ronde, qui n'est pas si ronde que ça, puisqu'on est en brochette, là, c'est... qu'est-ce que c'est ? C'est la finalité du poème « Territoire de Bernard Noël ». Alors, ce qu'on peut dire à propos de Bernard Noël, c'est qu'il avait de nombreux territoires et que tous ces territoires étaient intimement liés. Je peux vous dire deux mots sur Bernard Noël, si ça ne vous ennuie pas, qu'il est né le 19 novembre 1930 dans l'Aveyron, à la Sainte-Geneviève-sur-Argens. Il est mort à Laon le 13 avril 1921 et... C'était un poète, un écrivain, un essayiste, un critique d'art et un penseur. Son premier livre de poésie a été publié, je crois, en 1958. Je peux dire des bêtises, mais je le crois. Il s'appelle « Extrait du corps ». On peut le trouver aujourd'hui chez Gallimard, en Gallimard Poésie. Il a été assez connu pour un roman qui s'appelle « Le château de Seine », qui a d'abord été publié sous pseudonyme et qui lui a valu en 1973 un procès pour outrage aux bonnes mœurs. En 1975, il a écrit sur ce sujet un ouvrage qui s'appelle « L'outrage aux mots » où il invente le concept, je ne sais pas si c'est un concept, mais en tout cas c'est une forme d'idée organisée, qui s'appelle la censure, S-E-N-S-U-R-E, qui est une sorte d'abus de langage où la société crée, ce qu'elle fait d'ailleurs encore très souvent, une inflation verbale qui ruine la communication à l'intérieur d'une collectivité et par là même la censure, de façon démocratique, mais néanmoins très efficace. Voilà. Alors, dans l'œuvre de Bernard Noël, il le disait lui-même, et je me souviens d'un interview qu'il avait donné à Radio Prague, dans lequel il disait que on lui parlait toujours du château de Seine parce que ça avait fait, comme on dit aujourd'hui, le buzz. Et ça l'énervait un peu parce qu'on réduisait quelque chose de son œuvre qui est non seulement considérable et subtil, mais très vaste, et à ce roman soi-disant érotique, soi-disant transgressif, ce qu'il était d'ailleurs, et qui était d'abord un roman politique. À une époque où les mœurs n'étaient moins relâchées qu'à ce qu'aujourd'hui, ce roman était un pavé dans la mare. Donc c'était un acte politique. Et ça me permet de venir tout de suite à un élément important de l'œuvre, du travail, de l'existence même de Bernard, c'est la politique ou le politique. Son travail est un travail de poète politique. Pourquoi est-ce que c'est l'Union des poètes qui a organisé cette rencontre aujourd'hui ? C'est que l'Union des poètes est une association de défense des poètes et de la poésie. Et elle est politique, et Bernard Noël, qui nous a rejoint au premier jour, m'a toujours, c'est moi qui, avec d'autres amis, l'ont créé. Et vous savez, rassembler des poètes pour défendre la poésie, c'est la quadrature du cercle. Les poètes, c'est des extrons libres, des gens très recentrés sur leurs problématiques personnelles très souvent, sur l'écriture, sur le mot, etc. Et c'est un peu désespérant, quelquefois. Et donc, chaque fois, Bernard était extrêmement... me soutenait, nous soutenait, était présent, il était très attentif à ça et il trouvait normal que l'activité intellectuelle ou l'activité créatrice débouche aussi sur une activité concrète, pratique, politique. Parce que le poète est politique. Voilà. Un autre élément, un lieu que j'aimerais qu'on évoque avec nos invités, qui sont d'ailleurs que je n'ai même pas présentés, Serge Rittmann, Dominique Sampiero, Florence Pazzotou et Jean-Louis Giovannoni, qui sont tous de merveilleux écrivains et je crois tous des amis de Bernard. Voilà, qu'on parle de la représentation, c'est-à-dire du travail que Bernard a fait sur la peinture en règle générale, sur la poésie, bien sûr, on va en parler, et on va parler aussi, j'espère, de la politique et enfin de l'individu, parce que je considère, quant à moi, qui ai connu Bernard assez tardivement, que Bernard était un grand vivant, un être humain particulier et particulièrement ouvert aux autres, particulièrement attentif à l'autre, particulièrement attentif aux détails de la vie et curieux. Et c'est un travers très très intéressant et très important de ce qu'il était et de ce qu'il a figuré. Voilà. Pour commencer, donc, je vais vous lire un poème de Bernard Noël, inédit, que Eliane, ici présente, nous a envoyé. Et après, je céderai la parole à messieurs, dames, ou mesdames, madame, messieurs. Ça s'appelle « Mots rendus à l'air ». Ce qui est mort attend, quelque part, d'être recousu à la vie. Tout fait signe, même oublié, mais le présent ignore tout. Espace, lumière, amour, semblable sur la langue, promesse ou trace. Le visage est par-dessus le temps et peut-être la vie. Nous entendons sa voix glisser sur le silence, mots rendus à l'air. Sentir, là-haut, passer autant de souffles, nommer cela, puis sourire au vide. Nous est un pluriel étrange. Il dit avec et il dit sans. Nous est privé tout en étant public. Un désir autrefois malmené est resté noué sous la langue. Un lieu du tu à vif sous les lèvres du temps et ses lettres debout comme des dents au bord du souffle. Je vais te passer la parole, Florence, si tu veux.
Bonjour. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de Bernard. Bernard avait noué des amitiés, je pense, chaque fois très singulières et uniques et très fortes. J'avais la chance, je crois, d'être son ami. Et il avait aussi noué des amitiés très fortes, évidemment, avec les éditeurs qui le soutenaient. Moi, je préfère lui laisser la parole. Donc, je veux saluer évidemment ses éditeurs, puisqu'il se trouve qu'il a publié chez Paul et Paula Tchaïkovski-Laurence est mort aussi relativement peu de temps. Il a publié chez Une et c'est la même chose pour Saint-Yves, à qui je crois un hommage a été rendu hier. Il avait créé la collection donc chez Cadastre 8.0. Il y a Philippe et Mireille Bérac qui sont dans la salle. Et évidemment, il a aussi publié chez Lamourier et c'était, je sais que Jean et Bernadette étaient des amis très proches. Enfin, tout ça pour vous dire à quel point Bernard Noël, et ceux qui le connaissaient le savent, ne séparait pas son travail d'écrivain de ses amitiés très fortes. Je pense que innombrables sont les préfaces ou accompagnements d'œuvres qu'il a faites. C'était quelqu'un aussi qui continuait jusqu'il y a peu de temps d'écrire des lettres, ce qui était une chose très, très précieuse, d'une écriture absolument incroyable. Et bon, il y a ces entretiens qui ont été publiés donc par Lamourier. des entretiens qui ont été réunis, qui étaient ceux qu'il avait donnés à Alain Weinstein pour France Culture. Et Alain Weinstein était venu à Nice, je crois, donner un dernier entretien avec lui, donc une dernière rencontre publique. J'ai pris quelques extraits pour que vous entendiez comme ça comment lui-même parlait de son travail. Je n'ai pas envie qu'il y ait d'autres biographies que celles de mes livres. Par ailleurs, j'ai toujours le sentiment, peut-être ce qui me paralyse devant ce livre, que rien n'est encore vraiment commencé, que tout cela c'était pour préparer un moment où l'écriture serait davantage libre, où il n'y aura plus de différence entre la vie et l'écriture. Récemment, quelqu'un m'a envoyé une photocopie d'un entretien de François Mauriac à la fin de ses jours. Je ne suis pas particulièrement portée sur Mauriac, mais j'ai été très frappée par la dernière phrase de cet entretien où il disait que, pour un vieil écrivain, il ne devait plus y avoir de différence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Je me suis aperçue que cela énonçait quelque chose comme le paradis. Je ne sais pas s'il était perdu ou à venir. Hier, je lisais dans le train les rencontres de Beckett avec Charles Julliez. Beckett dit que, quand on écrit, on ne peut pas lire. Ça m'a beaucoup étonnée parce qu'il me semble que c'est l'inverse. Plus on lit, plus on se prépare à écrire, plus on prépare le terrain à ce qu'advienne cette chose qui est l'écriture. Est-ce que vous entendez bien ? Parce qu'ici, ça résonne, mais... Pour moi, c'est très étrange parce que comme j'ai vraiment la voix de Bernard à l'oreille... Je trouve très violent, en fait, d'y mettre la mienne, mais bon. Vous voulez pas prendre la relève et puis je lirai plus tard ? Parce qu'une fois que j'ai dit ça, maintenant, ça me... Hein ? Je referai un bout de lecture après.
Allô, ça marche ?
Ça me touche parce que c'est compliqué de parler de Bernard, parce que tout à coup, on devient intelligent à son contact. C'est-à-dire, la première impression que j'ai eue dans les entretiens que j'ai faits dans les années 98, c'est qu'il m'a amené ailleurs dans ma pensée. Et en même temps, parler de lui, comme il le dit finalement... C'est mieux de l'entendre dans ses poèmes et dans ses livres. C'est extrêmement compliqué. Mais la voix, c'est amusant, ça me touche beaucoup que tu parles de la voix, parce qu'on est tous contaminés. Mais tu sais, contaminés quand on est amoureux, quoi. C'est-à-dire, je suis désolé, je ne peux aller que là, dans cette relation d'amour qu'il savait créer avec cette pudeur, cette distance. Avec des très jeunes poètes ou des poètes pleins d'expérience. Et dans tous les êtres qui m'ont quitté dans ma vie, qui sont partis en voyage, la voix de Bernard est la seule qui soit restée intacte. Et alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que la voix de Bernard ? C'est quoi cette voix qui est le contraire d'une voix qui fait des effets ? Qui est le contraire d'une voix théâtrale, qui est le contraire d'une voix démonstrative. Et j'ai essayé de tout amoureux que j'étais de cet homme, et cette espèce de politique du corps, oui, je disais parfois politique du corps et du désir comme acte de présence, de transgression, etc. Moi, je l'entendais, en fait, il y avait une implosion. Je perdais mon identité, je perdais mes contours, et en même temps, il me rendait à moi-même. Je ne comprends pas comment la voix de Bernard pouvait m'emmener si loin pour finalement me ramener à moi-même. J'ai essayé, en venant vous voir, de dire... Comment je peux le remercier autrement qu'en lui disant « Mais c'était quoi ta voix, Bernard ? Est-ce que quelqu'un t'a parlé de ta voix ?» Parce que dans les entretiens que j'ai faits, où je l'ai enregistré, la voix qui cherche, la voix qui creuse en lui, avec cette espèce de gravité étonnée, monocorde, cette gravité humble et en même temps affirmée, qui doit aller de l'avant, cette gravité, c'est la même voix quand il lit le poème. Il n'y a pas un Bernard Noël me parlant de son rapport aux autres, au poème, à la politique, au corps, et tout à coup lisant un poème. Il y a une espèce d'unité comme ça qu'il ferait. Des fois, j'imagine qu'il sursaute quand je lui parle, puisque je continue les entretiens que j'ai commencé avec lui, comme s'il y avait une sainteté laïque. Quelle horreur ce que je suis en train de vous dire. Si la sainteté, c'est vous, cette puissance qu'a un être en vous parlant de vous écarquiller, il y avait cette puissance de la... Mais encore une fois, il éclaterait de rire de la sainteté, de la puissance de sa langue. Donc ça, voilà, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, et je te...
Alors je poursuis juste avec un petit extrait, puis après je vous laisserai. Ce qui m'intrigue aujourd'hui, ce sont les effets de réel qu'a l'écriture malgré elle. Effets de réel qui sont d'autant plus frappants qu'il n'y a pas de souci de réalisme, évidemment. C'est la génération de l'écriture, sa pulsion qui crée du réel sans qu'elle fasse référence au réel. Ça m'intrigue. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. C'est en quelque sorte un double du réel, mais qui parfois est plus réel que le réel. Peut-être aussi parce que la langue met en jeu quelque chose de tellement plus profond que la simple représentation, et que dans ce mouvement-là, elle fait émerger du réel. J'en suis même à me demander si, dans la mesure où on s'abandonne à ce que certains ont appelé l'expérience intérieure, mais je crois que toute écriture est de l'expérience intérieure quand elle n'obéit pas à une simple volonté de représentation du pseudo-réel, de ce que nous appelons le réel ou la réalité, je me demande si elle n'ouvre pas, à ce moment-là, une bouche intérieure, une bouche d'ombre, comme disait l'autre, et si cette bouche d'ombre n'est pas quand elle existe, mais elle n'existe probablement que quand nous sommes dans cet abandon à la poussée, à la pulsion de l'écriture. Je me demande si cette bouche interne qui parle tout à coup et qui ne parle pas tout le temps ne pourrait pas être l'origine d'une autre anatomie en nous, d'une anatomie renouvelée. C'est peut-être en pensant à Artaud que je dis ça, mais le rêve d'Artaud de ce corps sans organes qui justement le libérait de l'anatomie mortelle, puisque toute anatomie après tout est mortelle, je me demande si, quand on ouvre cette bouche et qu'on en a conscience, s'il n'y a pas là une possibilité d'expansion corporéisante qui, au moins un moment, nous ouvre à quelque chose, à une dimension non mortelle. Voilà. Je voulais vous lire ça parce qu'il me semble que ça dit quelque chose ça raconte quelque chose de ce qu'était aussi l'écriture pour Bernard, au-delà de ce qu'on pourrait faire là, de lire quelques extraits pour que vous approchiez l'œuvre. De toute façon, l'œuvre de Bernard est accessible là au marché.
Bien, bonjour. C'est compliqué de parler de Bernard Noël. Bon, déjà parce que on parle de lui parce qu'il n'est pas là. Et c'est déjà quelque chose d'assez complexe puisque c'était quelqu'un d'extrêmement présent. Présent dans la relation d'une façon rare. Très rare, avec une écoute très très importante quand on était avec lui, et qui, c'est une chose aussi assez rare, qui vous rendait intelligent, plus intelligent que d'habitude, ce qui est assez rare, avec des personnes, et puis aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est comme s'il était, on était à égalité, vous voyez, il n'était pas au-dessus. Donc on était un peu plus intelligent que d'habitude. Et puis on avait l'impression qu'on était aussi intelligent que lui, ce qui n'était pas évidemment réel. Je voulais aussi souligner par rapport à ma génération, Bernard, c'est quelqu'un qui a une importance énorme dans la génération des gens comme moi qui ont commencé à écrire dans les années 70. Je veux dire parce qu'il était attentif à tous les livres qui sortaient, qu'il recevait. Comme tu disais, Florence, bah, il envoyait des lettres. Ce qui est assez... Bon, maintenant, ça n'existe plus, ça. On ne reçoit plus de lettres, non ? Enfin, rarement, des SMS, peut-être, ou des mails. Lui, il envoyait des lettres, et moi, quand j'ai reçu la première lettre que je venais de publier, Gardelmort, j'ai failli l'encadrer, presque, dans ma salle, parce que je me suis dit, bon, oh là là... Là encore, je me sentais un peu plus intelligent que d'habitude. Ça, c'est une chose... Et puis je l'ai rencontré, évidemment. Et ce qui est particularité aussi de la rencontre avec Bernard, c'est la densité de la rencontre. Alors, ça peut partir sur n'importe quoi. Hein. Je me rappelle qu'il était venu à la maison, il avait amené des confitures, on avait parlé de confitures. Oui, ça pouvait aller sur des choses tout à fait autres, mais en même temps, très rapidement, on rentrait dans des discussions par rapport à l'écriture. Voilà.
Tu peux nous lire quelque chose ?
Oui, je vais lire. Alors moi, j'ai pas choisi des poèmes, mais j'ai pris... Il y a un livre qui, pour moi, que je lis et je relis, qui s'appelle « Le journal du regard » et qui était en fait un livre extrait de différents textes sur la peinture, dont Bernard a extrait des différents livres et textes qu'il a publiés, pour donner un livre qu'on peut passer sa vie à le relire, et qui est sorti en 1988 chez POL, et il a été réédité en 2010. Alors je vous donne quelques fragments qui m'ont beaucoup fait réfléchir, mais c'est rien que les premières pages. Hein. Il faudrait lire le livre en entier. Alors je lis que c'est ça. La lumière est intérieur. Cet intérieur est dehors. Les choses sont-elles sous les mots ? Qui feraient-elles ? Inutile de les chercher sous leurs images. Elles n'y sont pas non plus. Mais où est alors la réalité ? Mettre en mots consiste à projeter le monde sur son intimité. Mettre en image entraîne à projeter son intimité sur le monde. Toute forme est sa propre limite. Nous avons foi dans ce que nous voyons. Le regard nous sert de critère de réalité. Mais ce que nous voyons, le regardons-nous encore ? Voir l'illusion est une manière de penser la limite, car la limite n'est elle-même qu'une illusion dans le jeu de la pensée. Nous ne connaissons la réalité que sous l'espèce du vu. Cette ressemblance nous satisfait. Après tout, l'objet se définit par son usage et nous n'en demandons pas plus à l'image de l'objet. La représentation est un jeu qui fonctionne parfaitement, même si nous oublions que la mise comporte toute notre relation au monde. Les images représentent du regard et non de la réalité. La réalité est dans le visible, elle est en dessous, comme la toile est sous la peinture. Le visible ressemble au réel. Tout est là, devant moi, tout le réel rangé sous la vitre du visible, tout est là, devant moi, sauf mon corps.
Bernard Noël, encore. Encore, Bernard Noël. C'est le titre d'un texte, encore, qui ouvre ce petit livre de poche. encore, comme disent les enfants, quand l'histoire est finie, ce qu'ils exigent, hein, c'est qu'elle recommence. Parce qu'on n'en finit pas avec ce qui a emporté, ce qui emporte. Je lis un petit passage. « La perfection fut dans le trajet. Comment serait-elle dans la trace ? Voici le pas à pas, non la vitesse. Mais autour du chemin, chacun peut mettre de la tête ou de la vue. » Oui, vous avez entendu, trajet et trace ont la même attaque, hein, consonantique, comme traverse, traverser. Et c'est vers qui compte, un chemin vers, un cheminement qui n'est surtout pas modèle, chemin à suivre, hein, mais invite au pas à pas. Invitation non à suivre, mais à se jeter pour que le trajet continue. Œuvrer plutôt que faire œuvre, il continue. Il ne s'agit pas d'attendre le possible, il s'agit seulement de créer les conditions propices à l'apparaître. Et alors, surviennent ce qui doit venir. Le survenir, avec Bernard Noël, comme ailleurs le survoir. Et certes, la leçon retenue des surréalistes, on va dire, mais je pense que c'est bien plus qu'une révolte logique. C'est aussi, chevillé au corps, un abandon au devenir. Autant d'espèces d'apparitions, un titre donné d'ailleurs aux correspondances à Georges Meurant, chez Didier de Villez. Comme dans cette manière de lire, quel grand lecteur. Ainsi, j'ouvre des livres comme une certaine fureur ouvrait la bouche de l'oracle. Et tes mots disent ce que je cherchais, eux qui ne l'avaient jamais dit avant que je la cherche. Oui, l'abandon ou devenir est une recherche. Proche de certains mystiques, cette recherche est foncièrement, me semble-t-il, dialogique. Disons, de voix à voix, d'où se tue. Voix du livre, voix de l'écrire, du lire, de l'écrire, passage de voix, on peut dire, qui ne peut s'engager que dans et par cette reprise de lire dans l'écrire et de l'écrire dans le lire. Je pense à la moitié du geste, mais aussi à certains monologues de comédie intime. Mais je dois aller plus vite vers cet espacement qui, avec Bernard Noël, devient peut-être, ouvre en tout cas, espacement mystique, surtout critique, jusqu'à tenir désir, comme on dit, tenir tête. Et je vous lis 7 paragraphes de ce texte, pour être un petit peu plus dans le texte. Tout espace tendu est intérieur. Quand l'étoile tombe, le ciel est une tête qui pense. Pour tendre l'espace, il faut être clair. Clair comme la nuit, car l'obscur est sans reflet. Ce qui est dit dans l'obscur va de l'oubli à l'oubli, en brillant de son seul éclat. Et cela est révélateur, parce que cela ne prend que le temps de tomber dans sa propre fin. Mais où est la fin, quand la trajectoire désigne l'infini ? Il n'y a pas de raison d'être. Être, c'est vivre l'impossible jusqu'à s'en faire une raison. Et cela est obscur, comme est obscure la poésie quand elle appelle, et qu'à force d'appeler, elle devient l'art d'accommoder des restes d'avenir. Les mots sont à l'absence ce que les morts sont à la terre. Il la crée, et l'ayant créée, celle-ci fait pousser leur contraire. L'avenir est d'abord cette lourdeur qui nous lie au sol avant de se nier dans le vertical. Le désir nous dresse, il est l'avenir qui se réalise en restant l'avenir. C'est qu'il n'y a pas un territoire de Bernard Noël. Il me semble qu'il n'y en a pas un. Il y en a plusieurs, mais je pense que c'est autre chose. Il y a une danse du désir qui devance la mort. Ce territoire, on peut l'appeler utopie. Je cite, qui soulève en nous des masses éteintes dont le redressement met en tête un point de vue depuis lequel apparaît l'immensité, c'est-à-dire ce qui est en avant de je. On entend Rimbaud. Le poème sera la poésie sera en avant. On entend le je qui aime appeler, que j'aimerais appeler le poème relation. On entend avec cet élan qui me fait dire que le point de vue devient point de voix. On a parlé de la voix, bien sûr. Et c'est en relisant pour aujourd'hui que j'ai ce regret. Je n'ai pas mis en exergue de mon dernier livre ce morceau que je vous lis. Le désir est ce qui couvre d'un seul visage nos deux mondes, celui de la destruction et celui de l'amour. Le visage est la solution, toujours provisoire, de ce conflit. C'est que l'engagement du poème avec Bernard Noël est toute la force du rapport éthique-politique par et dans le dire, lire, écrire. L'intempestif chez Bernard Noël, c'est cette force critique qui met, je continue le texte, tout l'espace où les pensées font flamber leur chevelure de mots, non dans un engrenage, mais dans un champ organique. Voilà, passage de voix, passage de corps, passage de poème, qui invente un avenir, qui reste à venir, qui aiguise le désir d'un poème de tête, c'est la fin du texte, dans le poème de page, poème de tête dont le poème de page, pardon, est le mot à mot. Un poème par cœur, d'un savoir qui ne se sait pas, par le cœur, par cœur. Alors, plus qu'un territoire, il me semble que Bernard Noël est cet espace à venir qui ne cesse de dire encore. Comme, je voudrais le dire quand même, comme les communeux, enfin, ou les communards, si vous préférez, comme les sans-voix, les cris des sans-voix, et puis aussi comme, je le cite, les images filantes dans l'épaisseur émue, où le sentimental est enfin tombé en poussière.
Merci. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a, dans toutes les interventions, c'est que tu as commencé à parler de la voix. Tu as dit comment que tu auras envie d'interroger Bernard. Et j'ai l'impression que c'est le cas de tous. C'est-à-dire qu'il est... moi, c'est le même sentiment que j'ai. Je voudrais lire deux petits morceaux de 13 classes du jeu qui vient de reparaître. On a beaucoup abusé des blancs. Les blancs ne suffisent pas plus à faire un poème que 14 vers suffisaient à faire un sonnet. Cependant, la disparition graphique est importante pour l'œil et à la lecture pour l'oreille. Le texte poétique est musique, dessin, image. Je ne suis pas loin de penser que le poème est un idéogramme, une série d'idéogrammes discrets. Le regard poétique, c'est sans doute le moment où tout le corps devient chambre noire. Je n'écris rien d'ailleurs sans le voir d'abord. Et moi, je regrette très fort que Bernard ne soit plus là, d'abord parce que j'avais encore des questions à lui poser, et une comme celle-là, c'est-à-dire comment fais-tu pour écrire rien sans le voir d'abord. Et s'il avait continué d'être avec nous, et ce qui aurait été merveilleux, eh bien j'aurais beaucoup aimé l'interroger là-dessus. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas. Voilà. Ouais.
Mais j'ai une chance et qui est une détresse. Bernard m'a toujours manqué, même quand j'étais en face de lui. Ça veut dire que ce qu'il évoquait d'infini, de puissant, de lumineux, de transgressif, etc., etc., à la fois faisait que j'étais totalement avec lui, totalement seul avec lui, et totalement en manque de lui. C'est un sentiment étrange, je m'excuse de le prendre par ce bout-là. Bernard ne me manque pas parce qu'il m'a toujours manqué. Et d'autre part, je me suis arrangé avec son départ, parce que pour moi, ça reste un départ avec une présence qui continuera de nous questionner, de nous répondre, de nous rendre plus intelligents dès qu'on se plonge dans un de ses poèmes, dans un de ses textes. Sa voix monocorde, sa voix, c'est l'aubrac, c'est la pierre, c'est le chemin de crête, c'est la montagne. C'est cette espèce de chaque mot. Bernard a cette puissance qui ne laisse percer aucune émotion, aucune. On a tous la tentation, dans le vers, à un moment donné, de laisser filtrer une émotion. Lui, non. il est à cette altitude du chemin de crête. Quand il parle, il sculpte chaque mot comme une pierre. Et dans ce chemin de pierre des mots, notre émotion apparaît. J'ai toujours trouvé... C'est le seul poète français, un peu André Duboucher, un peu... Mais la voix de Bernard Noël, c'est ce chemin de crête, cet éblouissement du monochrome, vous savez, une peinture avec une seule couleur qui tout à coup nous embarque très loin, qui m'éblouissait. Je me suis arrangé avec le départ de Bernard parce que 3-4 ans avant son départ, je suis allé le voir. Il m'a fait un lapin aux champignons. On a parlé quand il était à Paris. J'aurais voulu faire un entretien avec lui. Il m'a parlé quand il était à Paris. Il était serveur dans un restaurant, une brasserie parisienne. Et à un moment donné, il a servi une bière à Jean-Paul Sartre, qui ne savait pas que c'était Bernard Noël. J'ai trouvé extrêmement précieux cette image de deux montagnes qui se rencontrent et qui ne se connaissent pas. Et puis on est allé marcher autour de sa maison à Chasmy. À un moment donné, il avait du mal à marcher. J'ai eu ce bonheur. C'était quelqu'un qu'on avait envie de prendre dans ses bras et qu'on n'osait pas prendre dans ses bras. Moi, j'ai envie d'être là aussi dans mon désir de lui. Bernard provoquait un désir de lui qui ne pouvait pas s'apaiser, qui ne pouvait pas s'atteindre par le langage et par sa présence. Donc il m'a tenu le bras. Il a marché comme ça. Et puis je suis parti. Et pendant 3-4 ans, je ne suis plus allé le voir parce que je crois que j'ai senti qu'il allait faire son grand voyage avec sa grande valise en chêne. Et que je préférais me dire que il fallait que j'apprenne à vivre avec lui dans ses textes, dans cette distance, dans ce détachement qu'il demandait de nous aussi. Voilà. C'était juste ça. Donc Bernard est là, moi, demain. Je pense qu'il va m'appeler demain. Demain, il va m'appeler. Ou je vais l'appeler. Il va me répondre. Et demain, il me répond dans ses textes. Et chaque texte est une infinité de questions et de réponses. Et c'est à nous maintenant de faire avec le manque qu'on a toujours eu de l'infini qui est en lui.
Moi, je voulais juste dire, parce que je ne voudrais pas qu'on oublie, mais tu pensais peut-être le dire, Paul, qu'il y a quelqu'un qui fait un travail extraordinaire autour de l'œuvre de Bernard, c'est Nicole Burle-Martelotto. Et je pense que c'est... voilà, vous pouvez trouver ça, le site Atelier Bernard Noël, je crois. Voilà, ça, c'est important parce que c'est un travail absolument remarquable, dont j'ai appris, en fait, qu'elle le menait depuis très, très longtemps. Et donc voilà, vous allez pouvoir trouver là non seulement tout ce que Bernard a publié, mais même des textes, des articles sur lui, des rubriques, des choses absolument incroyables. C'est une richesse incroyable. Moi, les dernières fois où je parlais à Bernard, on parlait politique. Je lui disais d'ailleurs, quand il me disait qu'il était très fatigué, qu'il en avait marre, ce qu'il disait depuis un moment, je lui disais que c'était pas possible. D'abord parce que j'avais pas envie de l'entendre, mais ensuite parce que je lui disais, mais j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi jeune. Il était d'une curiosité de son époque extrêmement rare même chez des gens jeunes, c'est-à-dire vraiment à l'affût de ce qui pouvait se dire, et enfin avec une grande colère évidemment pour ce qui était de l'état du monde, qui ne le serait pas, mais en tout cas dans un... Enfin, il n'avait jamais renoncé, c'était quand même dans l'idée toujours. Sa grande question toujours, c'était mais si tout contre-pouvoir devenant pouvoir, imite ceux qui les ont précédés, alors c'est quoi la solution? Donc j'avais... Voilà, enfin bref, j'avais fini par en faire un petit poème pour lui répondre. Et donc, moi, je vais vous lire juste une page parce que c'est très différent. Bernard, il écrivait pas seulement de la poésie, ou en tout cas, il écrivait. Je pense qu'il aurait été d'accord avec le mot écriture. Et là, c'est un récit, et donc c'est un dialogue, enfin en tout cas, c'est un récit. Un extrait pour que vous entendiez que c'est très différent parfois aussi, Bernard et Bernard. Bon, alors, c'est toujours compliqué un extrait parce que... Donc c'est dans un livre, c'était le premier livre qu'il m'avait envoyé. 19 octobre 1977, il ne me l'avait pas envoyé en 77. Hein. Ça, c'est la date du livre, mais... On ne le sait que trop bien, les hommes veulent être leurrés. Mais il serait faux de croire que c'est toujours par bêtise. C'est aussi parce que, étant nés pour la joie, il ne leur est pas donné de la connaître et parce qu'ils ont soif de bonheur. Ce qui explique d'ailleurs que même les plus sages soient par moments aveugles et crédules, se laissent prendre au piège. Page 522, titre courant, image souhait dans le miroir. Laissant retomber les pages vers la droite, tout en contrôlant leur chute avec mon pouce, j'arrête le mouvement page 333, où m'attirent quelques mots en italique. Chez Marx, une pensée est non pas vraie parce qu'elle est utile, mais utile parce qu'elle est vraie. Je jette ce livre. Le vrai est-il utile? Faut-il la réciprocité des preuves? Celle dont j'aime les yeux m'a dit, mais quel jour, quelle fois, l'amour est toujours réciproque. La pensée progresse par éclat, par saccade. Ce qui est fictif dans la fiction, c'est la continuité. Hors de l'immanence, tout est fiction. À l'ignorance de la mort succède la distraction devant la mort. On écrit l'histoire, on vérifie la vérité par l'utilité. Comment dire un fait quand il ne nage plus dans son élément? Cet élément est la vie de la vie. Le corps se souvient, disait-elle. Le corps inspire puis expire, disais-je. Et nul ne peut saisir l'air qui, entre nos yeux, est le contact de nos yeux. Pas de sentiment, pas de roman, un peu d'air, du volume. L'écriture est le magnétophone mental. Tu viens? Attends, j'allais justement attraper quelque chose d'intéressant. Mon œil. Je lève les yeux, elle a son air sans culotte. On sonne à la porte, longuement, n'y va pas. Mais déjà, elle est en route, me jetant d'une bouche tout à coup retournée dans ma direction. Foutu, pas foutu, j'ai le temps de noter et j'y entre avec elle. Comment vas-tu, je te dérange? De toute manière, on ne peut pas écrire la plupart des choses, pourquoi pas? Tu me vois la plume à la main écrivant ce que tu vas dire. Magnétophone, J a nettement accentué la syllabe mag. Est-ce parce qu'il est peintre ou parce qu'il n'est pas français? Il faudrait s'extraire l'avenir de la tête. On n'est au présent que dans l'oubli, dit-elle. Le seul moment où nous sommes ensemble, c'est quand nous oublions que nous sommes ensemble. Tu m'aimes? Elle s'adresse à J, qui est un peu embarrassé. Alors, me désignant, elle lui dit « Nous allions tirer un coup. » « Ah bon, fais J, tu veux voir ?» Il y a quelques secondes de flottement. J s'assied. Il dit enfin « C'est un peu rapide. Quand on raconte, c'est terminé. » J prend un livre sur ma table, un livre de poèmes. « Toujours cette sacrée verticalité, dit-il. » La poésie n'a rien d'autre. Comment ça? Oui, la station droite et les retours.
Bien, moi je vais vous lire une lettre de Bernard Noël. C'est c'est pas une lettre confidentielle, hein, c'est une lettre littéraire. 31 décembre 1991. Mon retard pose problème. En quel temps écrivons-nous? Si c'est à l'intérieur d'une continuité, il n'y a que cette continuité. Il est vrai que le temps est toujours sur le point de n'être plus quand on le considère au présent. Et pour en venir à ta lettre, n'est-ce pas justement ce que notre conscience ne peut fixer que ce perpétuel versement? Avec pour conséquence qu'il se passe là, comme tu le dis, bien plus qu'il n'en contiennent nos représentations. Mais celles-ci ont-elles pour fonction de fixer le tout ou seulement de le symboliser? Une représentation est un contenant dont le contenu est infiniment supérieur à ce qu'il dit, sinon l'écriture ne serait qu'un procès verbal. Les petits soldats qui veulent exterminer la métaphore oublient que l'essence même du langage et d'être métaphorique. Vive la littéralité, mais qu'est-ce qui est littéral? L'important, c'est de faire bouger un peu la perception pour la réveiller à l'intérieur même de la représentation et du coup toucher le sens comme s'il venait sur l'œil ou sur la peau. Nous percevons plus, dis-tu, que le peu que nous enregistrons. Justement, je me suis toujours demandé si notre écriture ne se nourrissait pas de cette différence. Où irait-elle chercher autrement tout ce qu'elle révèle? Ce mouvement de révélation fait apparaître la mémoire comme un territoire infiniment plus vaste que celui de nos souvenirs et même que celui de notre vie, car il me semble que l'écriture peut y rappeler des événements bien plus anciens que nous, sauf qu'ils n'ont pas la configuration des souvenirs normaux. La tente poétique peut faire lever à la lisière du passé les éclairs d'un orage mythique. Et c'est alors, pour reprendre ton expression, le corps du monde parle à notre corps. Le monde actuel est trop inconsciemment raisonnable. Ça le rend petit et sans ambition. Peut-être est-ce cela-t-il lié à l'appauvrissement médiatique qui dessèche à la fois la langue et l'imaginaire. Qui oserait se lancer des entreprises comme Dieu ou la fin de Satan ? Sous le prétexte de la peur du ridicule, on ne redoute que la vision. Or, la vision a des effets qui dépassent notre contenance et qui sont capables d'y précipiter l'élan de l'univers. C'est autre chose dans la tête que le feuilleton quotidien. Regarde l'actualité. Nous vivons depuis un an la matière d'une douzaine d'épopées et tout cela est représenté de telle sorte qu'il n'en reste que des vagues émotions mesquines. Le mouvement que tout cela prononce ne trouve pas de bouche pour le dire et je crains qu'il ne s'ensuive un tournement suicidaire. C'est ce qui arrive déjà ici et là, une folie de mort. Je ne sais pas quand. La nécessité d'écrire s'articule avec les bouleversements politiques, mais la relation existe, peut-être parce que notre corps est solidaire du corps du monde, encore un toucher dont nous sommes les passeurs ou le passage. L'écriture est une force de la matière humaine, et non pas seulement l'aiguille d'un petit sismographe moral. L'époque écrase cette force, la détourne, l'amoindrit. On nous propose des petites bourses du CNL quand il faudrait nous mettre au défi d'écrire la Divine Comédie. Je te souhaite un débordement d'énergie et le grand large de l'avenir. Affectueusement, Bernard.
Une lettre à Bernard Noël, le 19 novembre 2020, il y a bientôt un an. Neuf distiques pour ses 90 ans. Jeunesse de notre humanité, tu nous l'as donné dans ton sourire que la voix porte, à chaque ligne, comme si l'en deçà, toutes tes pages pleines de cet oubli toujours à vif, ouvraient nos mémoires à des mondes inconnus et murmuraient un chant d'utopie. Depuis toutes ces années de lecture partagée, ton écriture entretient la rumeur de son écoute qui nous appelle pour changer nos plaintes en survoir, comme si nos ignorances devenaient soudain par ton phrasé des beautés résistant au dédain que l'obscur travail reçoit des puissants. Ta voix nous prend, son pluriel arrache tout ce qui confine nos corps dans une danse des vivants avec tous les gestes des morts en nous, ces humains à venir. Dans ta main, nous touchons tout l'amour.
Je voudrais évoquer juste le Dictionnaire de la Commune, qui est un ouvrage considérable, remarquable, et plus particulièrement encore, bien que ce soit juste la préface que Bernard a écrite à ce propos, où il commence, tout en voulant parler de la Commune et tout en voulant expliquer pourquoi, pour traiter de la Commune, il a voulu faire un dictionnaire, il a souhaité faire un dictionnaire, il parle de poésie. C'est-à-dire cette capacité recherchée à saisir la totalité d'un état qui a eu lieu. Et comme la poésie ne pouvait pas lui permettre de faire de l'histoire, il a fait un dictionnaire de la Commune. Dans ce dictionnaire, qui est un vrai dictionnaire, on apprend des choses extraordinaires. Et donc je vous invite à consulter ce dictionnaire, parce qu'on fait son chemin, évidemment, là-dedans. Soi-même. Et peut-être que pour terminer, parce qu'on n'en aurait jamais terminé, en fait, je vais vous lire un petit texte qui m'a été fourni sur le rôle du poète. Après tout, on est là pour ça. Sans doute vaut-il mieux partir du fait que notre société n'assigne aucun rôle à la poésie et que, généralement, elle l'ignore. En conséquence, la poésie doit se fortifier de ce qui la nie et tirer de cette négation un nouveau souffle. D'ailleurs, pourquoi est-elle ainsi refusée ? Parce qu'elle n'appartient pas à l'univers médiatique, à ses modes, à sa futilité. La raison de sa mise à l'écart est simple. La poésie ne saurait parler le langage simplificateur de la consommation sans y perdre sa nature, et elle ne saurait être lue sans contester la passivité qu'engendre cette simplification. Cela étant, faire acte de poésie, c'est aujourd'hui faire acte de résistance à l'avilissement de l'intériorité par des stéréotypes qui, sous prétexte de démocratie, en réalité de populisme, stérilisent l'émotion et l'imagination, tout en privant de sens la pensée. Un produit conçu pour tous est forcément un produit insignifiant, selon les critères de la consommation. La poésie, donc, est d'emblée inconsommable parce que, comme l'amour, elle a besoin d'un effort d'attention pour qu'advienne le partage. Sa signification est dans la qualité qu'elle rend au langage et par lui à la relation humaine. Voilà. Merci à vous tous, merci. Et lisez donc Bernard Noël.
Merci à Serge Martin Rittmann, merci à Dominique Sampiero, merci à Jean-Louis Giovannoni, merci à Florence Mazzottu et merci à Paul de Brancio. Dans quelques instants, la remise des prix Copeau aura lieu sur la scène du marché.